Bonjour à tous. On a vu par les chants que le Seigneur nous invitait à venir voir. On a vu qu'il était une lumière qui était prête à nous guider. Encore faut-il voir la lumière. Et c'est un peu la pensée que j'aimerais partager. Le Seigneur, je réfléchissais à ce que nous partageait notre frère M. Catéco ce matin. Le Seigneur veut nous amener à aller plus loin. Et on va lire plusieurs histoires groupées dans un chapitre. C'est le chapitre 8 de l'évangile de Marc, où on va voir le Seigneur enseigner ses disciples parce qu'il veut les emmener plus loin. Et il y a le couronnement, quelque part, de cet enseignement par un miracle bien précis. Et avant peut-être de commencer même la lecture, j'aimerais peut-être qu'on se pose la question, pourquoi le Seigneur accomplissait-il des miracles? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, où le miracle va aller à l'encontre des lois qui sont établies. Mais le miracle, il y a cet aspect, mais il y a un autre aspect, parce que Jésus ne parlait jamais pour ne rien dire. Tout ce qu'il disait était important et tout ce qu'il faisait avait un sens. Quand le Seigneur pouvait purifier le lépreux, pouvait remettre sur pied le boiteux, pouvait ouvrir les yeux ou les oreilles, derrière il y a une signification. Et quand Jésus, et quand en plus l'évangéliste nous rapporte un miracle bien précis, parce qu'il ne faut pas oublier que le Seigneur, certainement, devait accomplir des miracles. En veux-tu, en voilà dans sa journée. Les évangélistes ont sélectionné des miracles bien précis. Et ils ont été inspirés dans la sélection qu'ils ont faite. Et ils ont rapporté des miracles bien précis pour aussi qu'on comprenne quelque chose. Le Seigneur, quand il accomplissait des miracles, on va le lire, il voulait qu'on comprenne pourquoi il y avait eu ce miracle. Et en quelque sorte, il y a un enseignement à travers le miracle, un enseignement par la pratique. Et ici, on va le lire, hein, le Seigneur s'offusque de voir malheureusement que les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Lisons ensemble ce chapitre 8. De l'évangile de Marc. On va lire les 29 premiers versets. Donc une bonne partie du chapitre. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. » Si je les renvoie chez eux, à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7, dirent-ils. » Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément. Il faut savoir que ces pharisiens-là avaient assisté quand même la veille au miracle de la multiplication des pains. Donc ils demandent un miracle supplémentaire, soi-disant, pour croire. C'était de la mauvaise foi quand même. Après avoir eu une multiplication des pains, c'est vraiment ne pas vouloir croire. Verset 12, Jésus soupira profondément. En son esprit est dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis, Il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore ?» Vous voyez cette question. Jésus voulait qu'ils comprennent quelque chose. Or, ils ne comprenaient pas. « Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, dirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Il y avait quand même quelque chose que le Seigneur s'attendait à voir germer dans leur esprit, qui semblait ne pas vouloir sortir. On continue. Ils se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres. » Et il marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Et on s'arrête là. Des fois, je sais que pour ma part, j'ai eu un blocage pendant un temps avec l'évangile de Marc, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression, qu'en plus je connaissais les histoires depuis ma jeunesse, j'avais l'impression de connaître tout par cœur, et en plus un aspect, entre guillemets, assez décousu de passages, d'histoires. Je me disais, pourquoi ? On a l'impression qu'on passe du coq à l'âne, etc. Et j'avais vraiment du mal à comprendre certaines vérités que Marc a voulu nous faire comprendre. Et pourquoi j'ai tenu à lire tout le chapitre ? Parce que dans tout ce que nous allons voir, tout se tient. Tout se tient, tout est lié. Ici, on a vu dans l'ordre la multiplication des pains, un signe que les pharisiens demandent à Jésus et qu'il va refuser d'accomplir, un avertissement que Jésus va donner contre le levain des pharisiens, un reproche, quelque part. Et les disciples, d'ailleurs, vont peut-être pas bien comprendre cette parole de Jésus. Gardez-vous du levain des pharisiens. Alors, eux, ils ont la vue sur le seul pain qu'ils ont emmené dans la barque. Puis, ils vont peut-être se dire, on a oublié de passer à la boulangerie. On a oublié d'aller voir les pharisiens et leur acheter du pain. Alors, Jésus nous fait la remarque que c'était pas la peine, de toute façon, d'aller en acheter chez eux parce que le pain n'était pas bon, celui des pharisiens, peut-être. J'en sais rien. N'importe comment, ils en avaient une déduction de cette parole de Jésus très terre à terre, alors que le Seigneur, il ne laissait pas une parole terre à terre. Il ne parlait pas d'une manière innocente. Tout ce que le Seigneur disait avait un sens bien précis. Et souvent, et toujours, c'est profond. Ce que le Seigneur dit, c'est toujours profond. Et ça doit nous amener à réflexion. Jésus ne parle jamais à la légère. Et finalement, ce que va retranscrire Marc, et ce qu'on réalise en lisant ces histoires, c'est que les disciples voyaient Jésus. Ils voyaient les miracles. Ils ne pouvaient que le constater. Ils entendaient les paroles de Jésus. Mais comme le dit Jésus, ils voyaient, mais en fait, ils ne voyaient pas distinctement. Ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Trouvez-vous ça curieux que Marc nous relate justement le cas d'un aveugle qui va être guéri en deux temps? Un miracle en deux temps. On pourrait se poser la question, Jésus, quand il guérit, il guérit. Il ne guérit pas à moitié. Mais finalement, cette guérison, elle va être à la limite presque plus salutaire pour les disciples que pour cet homme aussi, bien sûr. Mais derrière cette guérison de cet aveugle-là, pour les disciples, il y a une perle à saisir et il y a quelque chose à comprendre. Dans tout ce chapitre 8, le Seigneur essaye d'enseigner quelque chose aux disciples. Et malgré les miracles, malgré les paroles, ils ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Alors à un moment donné, le Seigneur va être confronté à cet aveugle. Et ça va être utile, cette affaire-là. Et on voit d'ailleurs que quand est-ce que la guérison de cet aveugle va être saisie? À quel moment? Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. À quel moment a-t-il saisi la guérison? Quand il a commencé à regarder fixement Jésus. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à voir distinctement. On continue, et le passage qui suit, on pourrait croire qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Sauf que on en arrive au fait. On en arrive exactement là où il fallait arriver. Et ce sondage, cette enquête d'opinion que fait Jésus, elle n'est pas anodine. Le Seigneur veut une fois de plus vérifier si les disciples commencent tout juste à comprendre. Il s'inquiète de ce que les disciples comprennent la raison des miracles et des signes qu'ils voient sous leurs yeux. La raison pour laquelle Jésus pose cette question, « Qui dit-on que je suis ?» c'est parce que la réponse à cette question, c'est justement ce que le Seigneur cherche à faire comprendre aux disciples. Or, vous savez qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour retenir une leçon que quand on l'a apprise par soi-même, quand on a été face à des échecs, quand on a manqué plusieurs fois, qu'on s'est retrouvé au pied du mur et qu'on n'a pas réussi, etc. Les disciples, c'est la même chose. Plusieurs fois, il y a eu des miracles, ils n'ont pas compris. Or, l'enseignement, c'est toujours le même. Ce que Jésus voulait que les disciples comprennent, c'est justement la réponse à cette question. On peut imaginer, au moment du miracle de la guérison de l'aveugle, vous avez vu, il était à Bethsaïda. Bethsaïda, d'ailleurs, Jésus va dire contre cette ville, malheur à toi, parce que si les miracles que tu as vus avaient eu lieu ailleurs, ils se seraient repentis, toi tu ne t'es pas repenti. Donc cette ville était incrédule. Et au moment où cet aveugle va être guéri, Jésus va le prendre par la main. D'ailleurs, il va le toucher, il ne sera pas guéri. Hein. Il va le prendre par la main, il va le conduire dehors, en privé, avec les disciples. Et on imagine les disciples assister à la scène. Est-ce que tu vois? Ah, mais je vois, mais c'est pas terrible. Je les vois comme des arbres. Et à ce moment-là, il y en a un qui percute plus vite que les autres. C'est qui? C'est Pierre. Au moment où cet aveugle, alors ça c'est mon interprétation bien sûr, Et au moment où il va voir cet aveugle dire, mais je les vois comme des arbres. Moi, j'imagine le cœur de Pierre qui dit, mais j'ai compris. Cet aveugle, c'est moi. Moi aussi, je vois comme si c'était des arbres. Ce que fait le Seigneur, je le vois, mais je ne le vois pas. Donc il y a une clé qu'il fallait qu'il comprenne. Et là, Pierre va comprendre la clé. L'aveugle, il va voir distinctement comment ? En fixant Jésus du regard, en le regardant d'une manière distincte, en ce regard appuyé vers le Seigneur. Pierre va commencer à regarder Jésus d'un autre regard, justement. Et lui va commencer à le regarder distinctement. Il a commencé à se poser des questions. Mais au fait, c'est qui Jésus ? Il va réfléchir, il va peut-être se ressasser tous les miracles qui ont lieu, etc. L'agacement du Seigneur devant le fait qu'il ne comprenait pas. Et là, Pierre, il va comprendre. Et il va comprendre. Ses yeux vont s'ouvrir, des écailles vont tomber de ses yeux. Et il va comprendre que le Seigneur, mais justement, c'est le Christ, c'est l'envoyé de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il n'avait peut-être pas saisi jusqu'à ce moment précis. Et le Seigneur va lui permettre d'exprimer ce qu'il vient de comprendre. C'est bizarre que juste après, le Seigneur pose la question, mais qui dit-on que je suis ? Et qui va lever la voix ? Qui a eu cette révélation de Dieu ? Parce que c'est une révélation de Dieu. Mais Pierre, dans son cœur, il cherchait, il voulait comprendre. Il devait s'agacer aussi lui-même quand il entend le Seigneur, mais vous ne comprenez pas. Et j'imagine Pierre, ouais, bah d'accord, mais c'est pas simple de comprendre. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? J'imagine Pierre, entre guillemets, derrière, s'agacer lui-même des paroles du Seigneur qui s'agacent. Ça arrive, ça, des fois. Quelqu'un s'agace, et puis ça agace l'autre, finalement. Devant le tempérament de Pierre, celui qu'on connaît, je peux imaginer facilement comment il a réagi. Un bon agacement, quelque part, peut-être. Mais on imagine Pierre qui voulait... Il voulait la solution, Pierre. Alors, lui qui aimait le Seigneur, lui qui voulait découvrir, qui voulait aller plus loin. Mais quand cet épisode avec l'aveugle s'est passé, il a compris. Il a compris. En regardant Jésus... fixement, il a compris que le Seigneur Jésus était l'envoyé de Dieu, qu'il était celui qui devait venir sur la terre pour sauver les hommes et les femmes de leurs péchés. D'ailleurs, on va faire un petit saut au chapitre 24 de Luc, parce que finalement, cette affaire-là, elle se répète. On ne va pas lire toute l'histoire cette fois-ci. Mais vous connaissez cette affaire des disciples d'Emmaüs. On peut lire juste déjà le verset 31. On va bien voir quelque chose. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Donc eux aussi, ils avaient un problème de cécité. Ils voyaient, mais ils ne voyaient pas. Pourtant, Jésus leur avait enseigné. Jésus avait dit qu'ils devaient mourir. On va y revenir tout à l'heure. Mais ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas percuté le fait qu'il fallait que le Seigneur passe par toutes ces choses. Si on revient, gardez la page de Luc 24, on va revenir juste dans Marc 8. Un détail, justement, qui est très important. Comme quoi, des fois, dans les Bibles, les limites entre les grandes parties ne sont pas toujours évidentes. Mais là, il y en a une, vraiment. Au verset 30, donc on a la recommandation de Jésus. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Verset 31, il commença alors apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Vous avez remarqué ce petit mot, il commença alors. Ça veut dire que jusqu'à présent, le Seigneur s'occupait de leur enseigner une leçon bien précise, qu'il était l'envoyé de Dieu. Le but de ces miracles était qu'ils comprennent déjà cette première vérité. Et ils ne pouvaient pas comprendre la suite s'ils n'avaient pas compris la première. On passe à la leçon suivante. À partir du moment où Pierre a donné cette révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors commence la leçon suivante. On va pouvoir aller un peu plus loin. Et le Seigneur, dans nos vies, il aimerait qu'on puisse aussi aller plus loin. D'ailleurs, avec les disciples d'Emmaüs, on voit la même chose. Verset 28. Ils étaient en marche, le Seigneur leur donnait à nouveau les explications. On peut lire d'ailleurs. Verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'ailleurs, au fait, les Écritures, c'est quoi à ce moment-là? C'est quoi les Écritures? Nous, quand on dit les Écritures, ben, on prend une Bible et puis voilà les Écritures. À l'époque, c'est quoi les Écritures? C'est juste l'Ancien Testament. Hein, ce n'est que l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ à plusieurs reprises, à beaucoup d'endroits. Et le Seigneur va reprendre dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau n'est pas encore écrit, bien sûr, tout ce qui le concerne. Et il va l'expliquer aux disciples. Oui, il fallait, parce que tous sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Il fallait que je vienne parmi vous. Je viens pour mourir. Je viens donner ma vie parce que je vous aime, j'aime les hommes. Et je vais donner ma vie pour que les hommes puissent être pour l'éternité auprès de moi. Voilà ce que le Seigneur va rappeler. Finalement, il ne fera que rappeler l'enseignement qu'il a donné avant qu'il passe par la croix. Et les disciples d'Emmaüs, malgré peut-être toute la sueur que le Seigneur s'est donnée pour qu'ils comprennent, ben ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. La croix était passée, Jésus était ressuscité, ils avaient même entendu des personnes dire qu'ils l'avaient vu, et ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules. Et ici, Jésus va faire un bout de chemin avec eux et va leur expliquer la parole de Dieu. Et le verset 28 nous dit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus veut nous amener plus loin. Et peut-être cet après-midi, si tu ne comprends pas, j'en arrive à la clé du message, mais peut-être que dans ta vie, tu te dis, voilà, moi les textes bibliques, j'y comprends pas beaucoup. Quand je lis la parole de Dieu, je comprends pas tout. Des fois, je m'interroge sur l'utilité de le lire, de la lire. Le Seigneur, il désire que tu puisses aller plus loin. Et si, à l'image de Pierre, il y a dans ton cœur ce désir, vraiment ce désir profond, de comprendre, le Seigneur te le révélera. Moi, je crois que si c'est Pierre qui a eu la révélation, c'est parce que Dieu a vu dans son cœur ce désir de comprendre. Je pense, j'en suis convaincu, Pierre, il devait être vraiment agacé de ses paroles, de ses reproches de Jésus, parce que Pierre, il devait vraiment vouloir comprendre, mais il ne comprenait pas. Et à un moment donné, il a dû avoir cette prière qui est montée vers Dieu. « Seigneur, je veux bien comprendre, mais explique-moi. » Et Dieu a permis le miracle de l'aveugle. Et Pierre a compris. Pierre a eu cette révélation. Et voilà que quand Jésus va poser la question, il va donner la bonne réponse parce qu'elle venait du ciel. Et si toi, cet après-midi, tu te dis, moi, la Bible, j'y comprends rien. Le salut, je l'entends, je l'ai compris intellectuellement, mais je ne l'ai jamais vécu vraiment. Seigneur, je veux aussi aller plus loin. Et si dans ton cœur, il y a ce sentiment de vraiment vouloir comprendre, le Seigneur n'a pas d'autre désir que de te le révéler. Parce qu'il est la lumière, on l'a chanté, il veut te conduire sur ce chemin qui mène à l'éternité auprès de Dieu. Le Seigneur désire que tu puisses aller plus loin. Dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Plusieurs fois, le Seigneur nous parle, peut-être même dans une même journée, et on n'y voit rien. On n'y fait pas attention. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et si jamais tu ne comprends pas, s'il y a des points qui te bloquent, prie le Seigneur, demande-lui qu'il puisse te révéler ce que tu ne comprends pas. Demande-lui à ce que tu puisses saisir vraiment ce qu'il a fait pour toi. J'aimerais juste pour terminer ce message faire une lecture avec vous dans le livre de dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans le chapitre, dans le premier chapitre, on voit l'apôtre Paul qui fait une prière. C'est la même prière. Et c'est celle que je vous invite vraiment à faire dans le plus profond de vos cœurs. Seigneur, éclaire-moi. Que demande Paul ? Verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Seigneur, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Seulement nous ne pourrons comprendre qu'à la star de Pierre, il faut ce désir intérieur dans notre cœur de demander à Dieu ses réponses, ses révélations, de peut-être fournir peut-être des efforts. Ce n'est pas anti-biblique de dire que pour obtenir quelque chose du Seigneur, eh ben, il va y avoir un prix à payer. Le Seigneur n'a-t-il pas payé un prix important pour que nous puissions être rapprochés de lui ? Lui qui est venu jusque la croix, lui qui a souffert tout ce qu'il a souffert, pour que nous puissions être rapprochés de Dieu. Il a fait la plus grande distance pour venir jusqu'à nous. C'est vrai que il est difficile de demander pardon à Dieu si on n'a pas vraiment compris quel mal on lui a fait. Et je peux entendre qu'il soit difficile de même de demander pardon pour ses péchés si on n'a pas vraiment compris ce qu'est le péché. Le péché, c'est quand on a méprisé Dieu toute sa vie. C'est quand on a fait le mal. On a laissé libre cours à notre penchant naturel qui nous pousse à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Voilà le péché. Alors on peut le comprendre ici. Mais une demande, une repentance réelle ne pourra se faire qu'à partir du moment où Dieu nous aura révélé comment lui, il nous voit. Et si dans notre cœur, il y a cette prière vraiment sincère devant Dieu, « Seigneur, fais-moi comprendre comment tu me vois. » Quand le Seigneur va mettre le coup de projecteur sur notre cœur, on va vraiment saisir que devant lui, eh bien, le péché qui est en nous nous prive d'être auprès de lui. Et en même temps, on sait par la parole de Dieu que le Seigneur est mort pour nous, pour que nous puissions être pardonnés. Le fait que le Seigneur va nous révéler comment il nous voit nous permettra de nous approcher de lui et d'avoir cette prière vraiment sincère qui vient de notre cœur, cette prière qui demande pardon, mais cette prière qui vient du plus profond de notre cœur. Cette prière que Dieu pourra vraiment recevoir et qui nous permettra de saisir la paix qu'il veut nous donner. Est-ce que vous voulez être en paix avec Dieu ? On veut la paix du Seigneur. On veut la vie éternelle. Qui ne voudrait pas être au paradis pour l'éternité ? On le veut. Il faut le saisir par la foi, mais il faut réaliser qu'on a besoin, pour nous approcher de Dieu, de nous repentir. Cette repentance sera sincère. Elle sera profonde que si on a été éclairé. Comme des enfants qui sont dans la cour d'école, qui se sont battus, on peut être la star de l'instituteur et dire ouais, « dis pardon », les deux se disent « pardon », est-ce qu'il y a eu un pardon ? Non. Le pardon, il est réel et sincère quand on a compris quel mal on a fait. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il va nous être difficile de formuler, d'avoir ce désir vraiment d'être pardonné. parce qu'on n'a pas eu conscience encore du mal que nous avons fait. Or, c'est la clé pour saisir le salut que Dieu nous donne par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ sur le bois du Calvaire.